Chapitre 7. Le sort en est jeté. Cassandre entr'ouvre les yeux, tirée d'un sommeil agité par les pépiments des oiseaux. Le jour, tout juste levé, pénètre timidement dans sa petite chambre, à côté du temple. Il est bien trop tôt pour se lever. La jeune fille referme vite les yeux pour repousser le moment d'affronter la journée qui commence. Mais la sensation qu'elle éprouve alors n'a rien de réconfortant. Elle est debout sur la colline, penchée vers le scamandre qui déroule paisiblement son ruban argenté. Puis la pluie se met à tomber et un vent de tempête se lève qui enfle et agite les eaux de la rivière. Et soudain, la jeune prêtresse aperçoit un groupe d'enfants qui rit dans l'herbe, la tête levée pour boire l'eau de pluie. Sans doute connaissent-ils assez le cours d'eau pour ne pas avoir besoin de regarder où ils posent les pieds. Cependant, l'eau monte, déborde de son lit, inonde insidieusement une zone sablonneuse située en contrebas. Et les enfants s'en approchent, insouciants, sans entendre les cris de la jeune fille qui tente désespérément de les avertir. Elle sursaute, se dresse sur sa couche pour éloigner son rêve. Elle ne sait que trop ce qu'il signifie. Elle possède le don de connaître l'avenir, mais est incapable de détourner le cours des événements. « Si seulement Apollon m'avait donné le pouvoir de suspendre le temps, » murmure-t-elle en se levant. Elle aimerait que cette matinée ne finisse jamais, car ce sera la dernière matinée de paix. Tout à l'heure, devant toute la famille du roi réunie, Hélénos va procéder au sacrifice destiné à s'attacher la clémence des dieux durant la bataille. En tant que prêtresse, Cassandre ne pourra éviter d'être aux premières loges. Les yeux dans le vague, elle revêt sa longue tunique et s'oblige à boire une tasse de lait de chèvre avant de gagner le lieu du sacrifice. Ses parents, qui s'y trouvent déjà, la saluent le visage fermé, comme pour parer à toutes ses objections. Elle rejoint les autres prêtresses et s'avance derrière le grand prêtre Laocoon et Hélénos, son frère jumeau. La mort dans l'âme, elle regarde Laocoon s'emparer de son couteau de bronze pour trancher la gorge des fragiles agneaux sous le regard exalté du roi et de ses fils. Elle voudrait hurler, supplier son père de renoncer pendant qu'il est encore temps. Mais au lieu de cela, elle récite comme les autres les prières censées attirer la protection des dieux. « Zeus très glorieux, très grand, fais que la cervelle de nos ennemis se répande à terre comme ce vin. Que l'esprit des hommes est limité. Ignore-t-il donc que les Grecs sont probablement en train d'adresser la même prière au même dieu ?» Cassandre regarde son père et soudain se sent prise de vertige. Le beau et puissant visage du roi est devenu translucide. Et le voilà qui se dissout peu à peu dans la lumière jusqu'à s'évanouir totalement. La jeune prêtresse sait ce que cela signifie. Tous deux seront séparés. Priam disparaîtra dans le néant et elle devra poursuivre son chemin seule, séparée de ce qu'elle aime. Elle regarde ses frères, le grand Hector au casque scintillant, Déiphobe, l'impatient, Polydore, Lycaon et Polytès, le jeune et impétueux Troïlos et tous les autres. Lesquels seront encore là lorsque la guerre sera finie? Pourquoi refuse-t-il d'écouter ses conseils? Parce qu'elle est une femme? À quoi cela lui sert-il d'avoir ce don prodigieux si personne ne la croit? Au moment où les fiers Troyens quittent le temple, impatients d'aller se battre, elle n'est pas loin de maudire Apollon. Le sacrifice est terminé. Les guerriers Troyens sortent maintenant de la ville et gagnent un tertre où ils se rangent en ordre de combat autour d'Hector, qui remplace à leur tête le roi trop âgé pour se battre. Il y a aussi Polydamas, Aîné, Polybe, Agénor et Acamas, tous des guerriers redoutables. Revêtu de bronze, Hector brille comme l'éclair de Zeus. Dressé fièrement devant ses hommes, il suit des yeux l'approche des soldats grecs qui arrivent par la mer, puis d'une voix forte donne l'ordre d'avancer jusqu'au rivage. Les femmes sont montées en haut des remparts. Face à ce spectacle effrayant, elles se figent comme des statues. « Mon Hector est grandiose !» murmure Andromaque, en admirant l'ordre impeccable, remarquable des troupes. « La mort aussi est parfois grandiose !» réplique Cassandre. « Aucun Grec n'est capable de nous battre. Oublies-tu qui ils sont? Ignores-tu qu'ils sont conduits par le puissant Agamemnon et le légendaire Achille ?» Les chefs grecs qui débarquent maintenant n'ont en effet rien à envier à Hector. Les jambes serties dans le bronze, le buste protégé par une épaisse cuirasse, des clous d'or étincelants sur leurs épées. Ils ont de quoi terrifier les guerriers les plus intrépides. « Tu as vu cet homme qui les domine tous ?» insiste Cassandre. « Celui qui porte en couronne une gorgone au regard terrible ?» répond Andromaque en clignant les yeux. « Ce doit être Agamemnon l'Atride. Et Achille, le vois-tu ? On dit que ses jambières ont été forgées par Héphaïstos et que bébé, il a été plongé dans le Styx, ce qui l'a rendu invulnérable. mais Andromaque refuse de se laisser inquiéter par sa belle-sœur. J'admets qu'il est assez effrayant, mais nos hommes le sont tout autant. D'ailleurs, je suis sûre que les dieux sont avec nous. Les dieux sont avec nous, répète Cassandre en se moquant. On n'entend que cela dans toute la ville. D'où tenez-vous donc cela? Tais-toi et regarde comme Hector se bat pareil au lion. De fait, les premiers Grecs sont rapidement mis en déroute par l'époux d'Andromaque. Pataugeant dans l'eau après avoir sauté de leur vaisseau, certains n'ont même pas le temps de poser le pied sur le sable que leur sang rougit déjà la mer couleur de turquoise. Cependant, ils sont aussi nombreux que les abeilles au plus fort du mois d'août, quand les fruits mûrs exhalent leur parfum sucré. Ils affluent en grappes serrées, volent de tous côtés, harcelant les Troyens sans répit. Le sol vibre sous le galop des chevaux, l'air retentit des cris rauques des hommes. Les piques se heurtent, les boucliers s'entrechoquent, le sang ruisselle sur le sol sablonneux. Pas de doute, les forces sont égales des deux côtés. Combien d'heures, de jours durera le combat? Cassandre, qui sait que les Troyens seront vaincus, souhaiterait qu'on en finisse rapidement, pour épargner le plus grand nombre de vies possibles. Le combat fait rage sous le soleil qui commence à descendre vers l'horizon. « Regarde, Troïlos !» souffle soudain Andromaque. Ses cheveux volant dans le vent, l'imprudent est allé abreuver les chevaux de son char à une fontaine à l'extérieur de l'enceinte. Des Grecs ont surgi derrière lui et l'ont encerclé, serré au coude à coude pour ne lui laisser aucune échappatoire. Tel un mur vivant, ils le poussent, le rabattent en direction d'Achille. Ce fin stratège s'est bien gardé en effet de se précipiter sur Hector l'Invincible. Avant d'affronter le chef des guerriers troyens, il va l'affaiblir en éliminant un à un ses compagnons les plus dangereux. Face aux Grecs, Troïlos se bat avec l'énergie du désespoir. Il a appris à lutter dès sa plus tendre enfance. Il connaît toutes les ruses. Cassandre et Andromaque suivent chacun de ses gestes, prévoient chacun de ses pas, interprètent chacun de ses mouvements. Elles savent exactement à quel moment il commence à perdre espoir. Et soudain, le grand Achille lève très haut son épée et la bat d'un seul coup sur la tête de Troïlos. Des larmes plein les yeux, Cassandre voit son jeune frère tomber à terre. Lorsqu'Achille se jette sur lui et tente de l'étrangler, elle ne peut s'empêcher de pousser un cri en tentant d'écarter les mains imaginaires qu'elle croit sentir autour de son propre cou. Et lorsque le Grec lève de nouveau son épée et d'un geste ample sépare du tronc la tête de Troïlos, elle se laisse tomber à terre, évanouie.